En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son sixième mois. » Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Tout à l'heure à la sacristie, l'équipe qui préparait la liturgie m'est tombé dessus en disant « On a préparé, mais on n'a rien compris à la seconde lecture, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ?» Et effectivement, saint Paul, quelquefois, a des jets littéraires qui sont un petit peu compliqués. Et il baigne dans sa conception de la révélation, mais ça a besoin d'explications. Il parle d'un mystère. Je ne sais pas si vous avez la seconde lecture sous les yeux, mais en tout cas, il dit « révélation d'un mystère, gardé depuis toujours dans le silence ». Il parle du mystère de l'incarnation, c'est-à-dire la venue de Jésus dans la chair, la venue du Fils de Dieu parmi nous. Il dit « c'est un mystère qui a été gardé dans le silence, on ne savait pas ». Il y a eu des approches dans l'Ancien Testament, mais cela n'avait pas été dit clairement, donc voilà, révélation d'un mystère. Maintenant, il y a la révélation du mystère, mais auparavant, il était dans le silence. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques. C'est-à-dire que ce mystère, on en a eu une approche à travers des prophéties dans l'Ancien Testament, et aujourd'hui, par exemple, on a une très très belle approche dans la première lecture tirée du second livre de Samuel, où il est question de ce désir qu'a Samuel de construire un temple pour Dieu, et puis Dieu qui lui dit « Mais c'est moi qui vais te faire une descendance. » Bon. Donc il y a des approches dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue du Christ. Et puis, troisièmement, saint Paul dit « Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. » À travers la prédication de l'Église primitive, déjà qui s'est étendue dans tout le bassin méditerranéen, en quelques années, ça a été fulgurant, eh bien, ce mystère est porté à la connaissance des païens de toutes les nations, dit Paul, pour les amener à la foi, à l'obéissance de la foi, parce que la foi, c'est une obéissance à la parole de Dieu, comme on le voit bien à travers la réponse de Marie, « Que tout se passe pour moi selon ta parole. » Marie obéit à ce que Dieu lui demande. Voilà, Paul décline ce mystère en trois étages. Il dit, premièrement, il a été gardé dans le silence. Deuxièmement, il y a une manifestation déjà dans l'Ancien Testament à travers les écrits prophétiques. Mais troisièmement, il est maintenant divulgué, porté à la connaissance de tous, pas seulement des Juifs, mais de toutes les nations. Venons-en précisément à ce qu'il nous est dit aujourd'hui dans ce second livre de Samuel et dans l'Évangile, à savoir cette façon dont le roi David prend conscience à un moment que lui-même s'est construit un magnifique palais en tant que roi, et puis que l'arche de Dieu qui contient les tables de l'Alliance, les 10 commandements, l'arche de Dieu, elle est toujours sous la tente qu'on trimbalait au désert pendant la marche à travers le désert. Et il y a vraiment une sorte de grand écart entre la richesse du palais de David et puis au fond cette tente qui peut-être est dans un état un peu miteux à l'époque. Et brusquement, David se met en tête de construire un temple pour Dieu, et un temple plus beau que sa maison royale. Et voilà, ça y est, il a trouvé une sorte d'objectif pour les dernières années de son règne. Et puis, à travers le prophète Nathan, voici que Dieu lui fait savoir, mais je n'ai pas besoin de temple. Puis d'abord, c'est moi qui vais te faire, qui vais te bâtir une maison, une descendance, la maison de David, comme on dira. Et tu auras un descendant. C'est moi qui t'ai choisi. Et maintenant, le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis, quand tu vas mourir, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi et je rendrai stable sa royauté. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Voilà une annonce de la venue de Jésus en tant que fils de David, descendant royal. Voilà, ça c'est souvent les manières de faire de Dieu. Il profite d'une idée que nous avons en tête, qui n'est pas forcément tout à fait juste, mais qu'il va respecter parce que David va se mettre à tout préparer pour construire un temple. Il profite d'une idée que nous avons en tête pour nous donner son idée à lui et nous faire aller plus loin. Et c'est beau d'une certaine façon parce que Dieu respecte toujours la façon dont nous agissons. Et il ne va pas dire à David, non, mais c'est pas la peine que tu me construises un temple. Il va laisser David tout préparer pour que son fils, Salomon, entreprenne la construction d'un temple magnifique qui va être l'orgueil des Juifs ensuite, hein, qui est détruit maintenant. Il ne reste plus à voir que le mur occidental qu'on voit de temps en temps à la télévision. Mais voilà, et Dieu a respecté ce projet de David, et puis en même temps, il lui a communiqué quel était son projet à lui, et David a pris acte qu'il se passerait quelque chose, mais voilà, il ne savait pas très bien quoi. On comprend alors que des contemporains de Jésus l'interpellent en lui disant « Jésus, fils de David ». Par exemple, on entend deux aveugles qui disent cela, « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Jésus, à son entrée à Jérusalem au jour des rameaux, a été acclamé comme roi et fils de David. L'ange Gabriel va reprendre vis-à-vis de Marie cette prophétie qui avait été faite à David. Et alors que Marie est tout à fait éberluée de la salutation de l'ange, l'ange lui dit ceci, « Tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » L'ange Gabriel reprend la prophétie faite à David par Nathan pour dire « C'est maintenant le temps de la réalisation. » Et il reprend la perspective de la maison. Quand Marie pose la question « Mais comment cela va-t-il se faire ?» l'ange répond « L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé fils de Dieu. Et l'Esprit Saint qui vient sur Marie, qui la prend sous son ombre, la gloire de Dieu qui revêt Marie, c'est aussi une image de la maison. Mais voilà comment on sent bien que les perspectives s'emboîtent les unes dans les autres et que Dieu travaille dans le temps, à travers le temps, et le temps long, pas le temps bref. Aujourd'hui, on est tellement dans la brièveté, l'immédiateté, la rapidité, la simultanéité, qu'on a vraiment beaucoup de mal avec ça. Mais Dieu a tout son temps, et il parle en dizaines, en centaines, en milliers d'années. Terminons peut-être par cette réponse que Marie donne à l'ange Gabriel, et qui est aussi le thème de ce dimanche, le oui de Marie. Elle répond en disant « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et cette réponse est décisive, cette réponse est essentielle, cette réponse était attendue. Autrement dit, Dieu ne veut pas réaliser son plan, son projet, sans l'assentiment et l'accueil de l'humanité. Et cet accueil de l'humanité passe par le oui de Marie. Si Marie avait dit non, Dieu n'aurait pas outrepassé, me semble-t-il, ce non. C'est dire que sa réponse était décisive. Je voudrais terminer en lisant un beau texte de Saint Bernard que nous avions au bréviaire hier et qui brode sur cette question de la réponse de Marie et qui dit, mais tout le monde l'attend. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance. Il l'implore Abraham, il l'implore David. Ils la réclament tous instamment, les autres patriarches tes ancêtres qui habitent eux aussi au pays de l'ombre et de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Ne tarde plus, Vierge Marie, vite, réponds à l'ange. Ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole passagère et étreins la parole éternelle. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon ta foi. Et fais-toi tout accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Certes, il ne convient pas en cet instant que la simplicité de ton cœur virginal oublie la prudence. Mais en cette rencontre unique, ne crains point la présomption. Vierge prudente, car si ta réserve fut agréable à Dieu dans le silence, plus nécessaire maintenant est l'accueil empressé de ta parole. Heureuse Vierge, ouvre ton cœur à la foi, tes lèvres à l'assentiment, ton sein au Créateur. Voici qu'au dehors, le désiré de toutes les nations frappe à ta porte. Ah, si pendant que tu tardes, il allait passer son chemin, t'obligeant à chercher de nouveau dans les larmes celui que ton cœur aime. Lève-toi, cours, ouvre-lui. Lève-toi par la foi, cours par l'empressement à sa volonté. Ouvre-lui par ton consentement. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. »